Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, monsieur, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver sur Canal Académie pour un nouvel épisode de notre rubrique Portrait. Nous nous intéressons aujourd'hui au peintre et académicien Eugène Delacroix. Dandy dans son apparence, classique et moderne dans sa peinture, il fut victime de bien des malentendus. Kyo, toile qu'il présente au salon de 1824, l'érige en tête de file des romantiques, et cela bien malgré lui. En 1830, son œuvre « La liberté guidant le peuple » le fait passer pour un révolutionnaire. Or, Delacroix, tout consacré à la peinture qu'il soit, demeure un homme d'ordre menant une vie sédentaire et laborieuse. Son œuvre immense reste largement mieux connue que sa personne. Voilà pourquoi l'émission d'aujourd'hui vous propose d'aborder le peintre Eugène Delacroix non pas à travers son œuvre, mais à travers son parcours pour laisser place à l'homme et à sa personnalité. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Christine Natta, qui vient de publier aux éditions Talendier une biographie d'Eugène Delacroix, concentrée sur la personnalité et le parcours du peintre académicien. Madame Natta, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Vous êtes spécialiste du 19e siècle. Vous avez établi plusieurs éditions critiques de textes de Barbey d'Aurevilly, de Balzac, Dumas, Baudelaire. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un essai sur le dandysme et un autre sur le temps des mousquetaires, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Mais revenons à Eugène Delacroix et partons donc avec vous à la découverte de sa vie. Commençons bien entendu par le mystère de sa naissance. Selon vous, est-il le fils de son père, Charles Delacroix, ou comme il a été dit, le fils de Talleyrand ?
Alors, c'est une question inévitable, c'est la question des origines, à laquelle on n'a pas de réponse définitive. Il est très peu probable qu'il soit le fils de Talleyrand. Il est probable, en revanche, qu'il soit le fils de son père, Charles Delacroix, mais on n'a aucune preuve irréfutable qui mettrait un terme à ce débat qui agite la critique depuis très longtemps. On ne sait pas qui est véritablement. Il reste un mystère autour de la naissance d'Eugène Delacroix.
Débat qui repose sur un sarcocèle. J'ai appris ce qu'était un sarcocèle grâce à vous, un sarcocèle du père, qui était impressionnant.
Oui, alors c'est un sarcocèle, c'est donc une tumeur au testicule. Donc Charles Delacroix avait une tumeur au testicule gauche, donc un sarcocèle énorme, puisqu'il pesait 16 kilos. Et Eugène Delacroix donc, est né quelques temps après, peu de temps après, donc l'opération de ce sarcocèle. Et c'est la raison pour laquelle on émet donc un doute sur la paternité donc, de Charles Delacroix.
Un doute sur la paternité. En tout cas, Eugène Delacroix va être élevé par Charles Delacroix et son épouse Victoire. Et d'ailleurs, lui se présente comme le fils de son père.
Ah mais toujours, il n'y a absolument aucun doute sur cette question-là. Il a pour son père, qu'il a perdu à l'âge de 7 ans, il a pour son père beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et même aussi beaucoup d'admiration. Il admire en particulier son courage physique. Donc il lui rend hommage très très fréquemment. Donc pour lui, il n'y a pas de doute. Si on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, c'est peut-être moins simple. En tout cas, bon, il semblerait qu'il n'a pas vraiment de doute sur cette question.
Alors vous venez de dire qu'il avait perdu son père jeune, il va perdre sa mère aussi très tôt.
Oui, à l'âge de 16 ans.
À l'âge de 16 ans, et il est le dernier d'une fratrie, enfin non.
Oui, enfin il est vraiment le petit dernier, mais un petit dernier très très tardif, puisqu'il a 19 ans de différence avec son frère aîné. Et puis à peu près la même chose, enfin quelques années près avec ses autres frères et sœurs, il a un frère qui est mort, qu'il a perdu très tôt aussi. C'est un frère qui était militaire et qui est mort à la bataille de Friedland. Il a bien connu son frère aîné, donc Charles-Henri, et sa sœur Henriette Delacroix.
Quel est le contexte familial d'Eugène Delacroix ?
Il a une éducation, une excellente éducation. Il a une éducation très choyée. Il a vécu dans le milieu de la très haute bourgeoisie, puisque son père a été préfet d'Empire. Il a été ministre des Affaires étrangères. Donc c'est vraiment un notable de la très très haute bourgeoisie. Donc il a vraiment vécu une enfance tout à fait heureuse, il a été aimé, il a vécu dans un milieu harmonieux, enfin bon, voilà.
Donc à la suite du décès de son père, son père était alors en poste à Bordeaux, à la suite du décès de son père, la famille s'installe à Paris.
Oui.
Eugène Delacroix va intégrer le lycée impérial, qui est le lycée Louis-le-Grand. La description que vous en faites n'est pas très alléchante, puisque vous dites que c'est un compromis entre le couvent et la caserne, ce système a-t-il convenu aux jeunes Delacroix ?
Je ne sais pas. Enfin, le fait est qu'il ne s'en plaint pas beaucoup. Il a passé quand même 9 ans au lycée, il a passé toute sa scolarité au lycée impérial. Il y a noué des amitiés extrêmement précieuses, vraiment, et il y a passé de bons moments finalement. Alors évidemment, ces bons moments étaient entrecoupés de grands moments d'ennui parce qu'il était pensionnaire dans ce lycée et puis certains cours étaient vraiment profondément ennuyeux et pendant qu'il s'ennuyait lors de ses cours, donc il dessinait beaucoup sur ses petits cahiers d'écoliers, cahiers d'écoliers d'ailleurs qu'on a retrouvés et qui nous donnent déjà une idée de son talent de peintre.
Alors quel bilan peut-on tirer de ces années, oui, à Louis le Grand ?
Un très bon bilan, il est très content en tout cas de l'enseignement qu'il y a reçu. Alors peut-être que, comme je vous le disais, il s'y est un peu ennuyé, n'empêche qu'il y a beaucoup appris. Vraiment, il a été nourri et de grec et de latin, c'est surtout du latin qui l'intéressait. Il y a appris des langues étrangères. Il est très satisfait, justement, de cette culture classique.
Alors, il sort du lycée Louis le Grand en 1815. Mmh. Entre-temps, il a perdu sa mère l'année précédente, je le disais tout à l'heure.
Oui.
Pour lui, bon, au-delà du chagrin, bien sûr, qu'il éprouve, c'est le début des ennuis financiers, non ?
Oui, parce que l'héritage de Victoire de la Croix, la mère d'Eugène de la Croix, donc, est un véritable cadeau empoisonné. Donc, qui va précipiter la famille dans la ruine et qui va brouiller aussi le frère et la sœur de Delacroix. Voilà, donc Eugène Delacroix va être très, très, très marqué par ces problèmes d'argent qui ont vraiment envenimé considérablement ses relations familiales. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand il sera adulte, il sera vraiment un homme d'ordre de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il gérera son budget, même s'il est petit, avec une grande précision. Il ne fera pas de dettes. Il ne mènera pas la vie de bohème, comme certains peintres ont pu la mener. Lui, pas du tout. Il a toujours eu de l'argent. Il s'est toujours débrouillé pour pouvoir justement ne pas faire de dettes.
Donc, il sort du lycée et là, il a besoin, entre guillemets, d'un métier pour gagner sa vie.
Oui, alors il sort du lycée, mais déjà en ayant l'idée très précise d'être peintre. Ça, c'est quelque chose qu'il souhaite et c'est la raison pour laquelle il entre dans l'atelier de Guérin. Bien sûr, il faut aussi qu'il gagne sa vie parce que, justement, comme il n'est pas un héritier, loin de là, donc il y a une toute petite rente qu'il a eue à la suite de la mort de sa mère, mais qui est vraiment minime, donc il est obligé de travailler. Alors il trouve des petits travaux, alors qui sont divers. Il fait un peu de dessin industriel, il fait de la décoration d'appartements, enfin il fait des choses comme ça qui lui apportent un complément.
Des petits boulots qui auront toujours un lien finalement avec le dessin ou la peinture.
Oui, il y a un travail auquel il se refuse absolument, c'est le travail du professeur. Il ne supporte pas de donner des cours de dessin, il n'en a jamais donné et ça c'est vraiment... Pour lui, c'est un travail presque bas, c'est curieusement. En revanche, bon, tous les autres petits travaux qu'il peut faire, effectivement, ont tous un rapport avec son métier. Et puis alors, les travaux les plus agréables sont ceux qui sont directement en rapport avec son métier de peintre, comme justement des commandes que peuvent lui fournir certains de ses amis, dont Géricault, qui lui fournit la commande d'un tableau religieux dont il n'avait pas envie, et donc que Delacroix a pris en charge.
Il se retrouve aussi décorateur.
Oui, alors décorateur d'appartement, voilà. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Non, pas décorateur de théâtre, il a fait des costumes, pour des pièces d'Hugo, mais il n'a pas fait de décor.
Alors, une fois qu'il a opté pour le métier de la peinture, il est assez consciencieux, je dirais, dans sa méthode. Et on a l'impression vraiment qu'il décide de l'apprendre comme un métier, qu'il se choisit un maître. Pourquoi Guérin ?
Ça, c'est sans doute son oncle, Rissner, qui était peintre aussi, qui l'a conduit vers ce maître. Et bon, et Delacroix y est entré. Il y a une autre raison aussi, probablement, c'est que l'atelier de Guérin avait une très bonne réputation. C'était un atelier qui n'est pas trop chahuteur, où on travaillait bien et ça convenait très bien à Delacroix. Puis en plus, bon, l'ambiance qu'il y avait entre les élèves lui convenait aussi très très bien. Voilà, il y a noué aussi des amitiés, peut-être un petit peu moins profondes que celles qu'il a nouées au lycée, mais en tout cas, quand même importantes.
Qui lui serviront dans sa carrière ?
Oui, oui.
C'est là où il rencontre Géricault ?
Oui, et Géricault est allé aussi au lycée impérial, mais ils se sont croisés puisqu'ils avaient 7 ans de différence, donc ils n'ont pas pu se...
Quel lien entretiennent les deux peintres ?
Alors c'est un lien qui est complexe parce que c'est un lien qui se situe entre l'admiration et la rivalité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à proprement parler amis. Ils sont camarades, on peut dire ça, mais ils ne sont pas à proprement parler amis. Delacroix admire Géricault et en même temps on est un petit peu jaloux. Il y a quelque chose d'un petit peu ambivalent.
Il respecte sa peinture, mais moins l'homme.
Non seulement il la respecte, mais il l'admire franchement. Il l'admire franchement. Alors je pense qu'il y a peut-être aussi une pointe de jalousie, parce que Géricault était très très différent donc, de Delacroix sur le plan de la personnalité. C'était vraiment un grand séducteur, un homme très beau, très sportif, tout ce que n'était pas Delacroix. Et il est probable que Delacroix ait nourri peut-être, sans qu'il le dise vraiment, une certaine jalousie à cet endroit, en tout cas.
Donc le jeune Delacroix apprend consciencieusement son métier, mais très vite, il va éprouver le besoin de se faire reconnaître. Et pour cela, comment va-t-il procéder ?
Ah, il n'y avait pas 36 chemins à l'époque, c'était le salon. Donc il fallait passer par le salon de peinture, qui était la seule voie importante par laquelle on pouvait être reconnu, un artiste pouvait être reconnu.
Alors, il va présenter son premier salon, c'était en 1822. Mmh. Mais pour passer la barrière du jury, j'ai envie de dire, il fallait déjà que Delacroix ait certains soutiens derrière lui.
Pas nécessairement. Il lui était pas nécessaire d'avoir du soutien. Non, les choses ne se faisaient pas forcément par piston, pourrait-on dire. Non, ça pouvait aider, effectivement. Mais Delacroix n'en avait pas.
Parce qu'on le voit quand même, avant de présenter son premier tableau, on le voit se montrant au salon de Gérard, on le voit se montrant...
Oui.
Essayer de se nouer un réseau, entre guillemets... Oui. Qui pourrait lui servir ?
Oui, mais pas spécifiquement pour le salon, ça pouvait servir. Il a très vite compris que la mondanité était effectivement que tisser des réseaux mondains, des réseaux sociaux, enfin dans la mondanité, ça pouvait être effectivement un appui important, mais pour la carrière en général, pas spécifiquement pour le salon en particulier. Et de toute façon, Delacroix, et ça c'est aussi un de ses paradoxes, c'est effectivement un artiste très solitaire, Et c'est aussi un mondain, c'est les deux. Alors la mondanité, ici, il va dans le monde non seulement parce que c'est utile, mais aussi parce qu'il aime ça. Il aime le jeu mondain, même s'il en dénonce très souvent la superficialité, la stupidité. N'empêche qu'il y va très souvent.
Donc Delacroix expose pour la première fois au Salon 1822. Quelle œuvre présente-t-il ?
Il présente le Dante, Dante et Virgile, qui était une œuvre assez importante, qui était une œuvre assez nouvelle. Alors, à la fois classique, parce que bon, c'est pas un sujet neuf, effectivement, mais nouvelle par le format, par le choix du sujet, parce que Dante était un auteur qui était devenu à la mode chez les romantiques. Mais c'était pas cet épisode-là qu'on présentait, c'était d'autres épisodes, un peu plus romanesques, enfin un peu plus sentimentaux, disons. Alors que celui-ci, c'est un petit peu différent. Et souvent, Dante, on le présentait dans des petits formats, alors que lui avait choisi d'utiliser une peinture de plus grand
pour
format.
Pour se faire remarquer, justement.
Alors, oui, là aussi, parce que c'est une chose dont on a peu idée aujourd'hui, mais quand on voit la manière dont les peintures étaient exposées au salon, c'était assez terrible. C'est-à-dire que le mur était littéralement tapissé d'œuvres qui se tuaient l'une l'autre, en fait. Donc, pour pouvoir être remarqué dans cette accumulation d'œuvres, il fallait faire grand. Et ça, Delacroix l'a très vite compris.
Alors, quel accueil réserve-t-on au Dante de Delacroix ?
Alors, donc, c'est le premier, hein, c'est son premier salon. C'est un accueil qui n'est finalement pas si mauvais que ça. Il est remarqué quand même par Thiers, qui fait ses débuts. Alors, Thiers n'est pas encore l'homme qui sera le grand politique qu'il deviendra. N'empêche qu'il commence déjà à devenir important. Il est remarqué aussi par Delescluze, qui est aussi un grand critique de l'époque. Alors, qui n'ont pas, Delescluze en particulier, donc n'a pas forcément une grande... Enfin, ça a toujours été un petit peu le détracteur de Delacroix. Mais je trouve, contrairement à ce qu'on dit souvent, que Delescluze est peut-être le détracteur, mais c'est aussi quelqu'un qui reconnaît les mérites de Delacroix. Il y a une forme d'honnêteté chez lui que personnellement, moi, j'aime beaucoup.
Et ça y est, en quelque sorte, puisque Dante va être acheté par l'État,
oui,
ça met fin à ses problèmes financiers, ça lui assure une certaine aisance.
Momentané, parce que c'était pas une rente, c'était quand même pas une somme si considérable que cela. En plus, oui, le Dante va être en plus exposé au Luxembourg. Le Luxembourg était donc le musée où on exposait donc les artistes vivants. Donc pour un début, c'était vraiment un coup de maître, oui.
Donc Delacroix a percé, et tout de suite, il pense déjà au salon suivant.
Oui, il pense au salon suivant, au salon de 1824. Au cours duquel donc, il va exposer ces fameux massacres de Kyo.
Pourquoi avoir choisi un tel sujet ?
Alors, il a choisi ce sujet, auquel il songeait d'ailleurs déjà en 1822. Il a choisi ce sujet parce que bon, c'est un sujet d'actualité, donc pareil, c'est une manière effectivement de se distinguer des sujets classiques, et la Grèce était un sujet à la mode. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles donc, il avait choisi ce sujet. Et il avait entendu parler aussi, il lisait beaucoup les journaux, un témoin direct, donc peut-être pas du massacre de Kyo, mais enfin de scènes semblables, un militaire qui revenait de Grèce, donc lui avait raconté un peu ce qu'il avait vu, ça l'avait particulièrement impressionné, donc là il choisit de peindre Kyo.
Peut-on dire que Kyo traduit un engagement politique de Delacroix ?
Non, Delacroix n'est pas du tout un militant, comme d'ailleurs beaucoup de peintres. Quand les peintres peignent des toiles qui sont en rapport avec la guerre des Grecs, comme on l'appelait à l'époque, c'était pour des raisons esthétiques plus que politiques. Pour Delacroix, c'est particulièrement vrai. Delacroix n'est pas un militant. Delacroix, c'est un dandy qui, justement, ne veut se rallier à aucune cause. Puis c'est quelqu'un qui a toujours, je crois que c'est Baudelaire qui dit ça, qui a une grande frayeur d'être dupe. Donc il va être dupe de personne et pas non plus d'une cause ou d'un parti politique.
Alors là, qu'est-ce qui se passe autour de cette toile Kyo ? Peut-être déjà, expliquons, elle est extrêmement novatrice.
Oui, elle est novatrice, elle aussi un petit peu ambiguë, parce que si on la compare par exemple à d'autres toiles qu'avaient peintes des confrères de Delacroix, très souvent, ce qu'on mettait en avant, c'était, évidemment, qu'on était du côté des Grecs, donc on mettait en avant la sauvagerie des Turcs, ou alors on mettait en avant l'héroïsme des Grecs face aux Turcs. Et là, c'est pas du tout ce que fait Delacroix. Delacroix montre, au contraire, le peuple grec totalement effondré. Donc c'est un peu l'inverse de ce que faisaient ses confrères. C'est en ça donc qu'elle est nouvelle, puis elle est nouvelle aussi sur un plan esthétique, c'est-à-dire que ce qu'il a voulu transcrire par cette toile, c'est pas seulement le massacre de Kyo, qui est vraiment une chose absolument terrible, c'est finalement l'horreur de toutes les guerres en général. Il a voulu atteindre une certaine forme d'universalité à travers cette toile-là.
La couleur aussi est très nouvelle.
Oui, la couleur, évidemment, c'est quelque chose effectivement qui distingue Delacroix. Je pense que surtout cette forme, ce que je viens de vous dire là, qui a dérouté le public.
Donc, Kyo a dérouté le public et place Delacroix au cœur de la bataille romantique. Et cela contre sa volonté, n'est-ce pas ?
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on en a fait à partir de là le chef de file des romantiques. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Delacroix n'est pas un militant, ni sur le plan politique, ni sur le plan artistique. Il n'a jamais voulu être un porte-drapeau des romantiques. Et il l'est devenu, effectivement, malgré lui. Il le déplorait d'ailleurs, mais bon, c'était un fait.
Pourtant, il est quand même romantique.
Bien sûr qu'il l'est. Il a beau s'en défendre, oui, bien sûr qu'il l'est.
Entre autres, vous racontez son voyage en Angleterre. Il ne choisit pas l'Italie.
Non, il ne choisit pas l'Italie.
Il choisit l'Angleterre, oui. Comme les romantiques.
Oui, c'est ça. Il ne choisit pas l'Italie. Alors, il y a peut-être beaucoup de raisons, parce qu'il a voulu faire ce voyage en Italie jusqu'à la fin de sa vie, 1860, un an avant sa mort, il pense encore y partir. Donc, il a toujours voulu aller en Italie, mais effectivement, le fait est que, bon, il n'y est pas allé. Donc il est allé en Angleterre, effectivement, parce que c'est un choix plus original et puis qui est plus en conformité, effectivement, avec les romantiques. C'est le pays de Shakespeare que les romantiques admirent.
Je vous propose pour l'instant de faire une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Merci.
Alain Besançon, Renaud Denoy de Saint-Marc, Henri Amouroux, Pierre Mazeaud, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levitte, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie.
Nous sommes bien avec Marie-Christine Natta, avec laquelle nous évoquons Eugène Delacroix. Elle vient de publier aux éditions Talendier une biographie du peintre académicien qui se rapporte plus à sa personnalité et à son parcours. Au salon de 1827-1828, Delacroix multiplie le nombre d'œuvres qu'il présente. Figure parmi les 13 œuvres exposées, Sardanapale. Alors cette fois-ci, Delacroix s'inspire de Byron pour le sujet. Cette œuvre est encore plus déroutante, ai-je envie de dire. En quoi est-elle déroutante ?
Alors elle est déroutante déjà par son format qui est encore plus grand. C'est-à-dire que plus les années passaient, plus Delacroix augmentait le format donc, de ses toiles. Et celle du Sardanapale est vraiment assez impressionnante, d'une part. Et d'autre part, elle est aussi déroutante par sa composition. En effet, on voit Sardanapale qui se sacrifie, qui se suicide pour ne pas se laisser prendre par l'ennemi, qui se sacrifie lui-même, qui sacrifie ses richesses et qui sacrifie ses maîtresses, ses plus beaux chevaux, dans un immense brasier, dans un immense incendie. Et on le voit donc allongé sur son lit. Et le lit, on a l'impression que le lit bascule vers le spectateur. Alors cette toile assez déroutante a effectivement un peu étonné et scandalisé même le public. Enfin, c'est une des raisons, mais il y en a d'autres.
Et même les élateurs, cette fois-ci, de Delacroix, ne sont pas convaincus.
Non, alors moi, il y a une chose qui m'étonne beaucoup, c'est que justement Hugo, avec lequel Delacroix s'entendait alors bien, parce qu'il n'a pas été le cas toujours par la suite, et les autres romantiques ne prennent pas fait et cause pour Delacroix, là qui est attaqué de tous les côtés, c'est encore pire que pour Kyo. Il est étonnant justement qu'il n'ait pas pris fait et cause pour cette toile qui correspondait si bien à leur esthétique. Là, c'est quelque chose qui est étonnant.
Et même Thiers, on le sent plus frileux cette fois-ci.
Oui, tout à fait.
Comment réagit Delacroix à ce mauvais accueil ?
Il réagit mal, on le comprend aisément, mais en même temps, il dit une chose, il dit « la bête n'est pas encore crevée », en parlant de lui. Effectivement, bon, il va très vite finalement rebondir, et alors il accentue un peu exagérément l'opprobre dont il a été l'objet. Il dit que pendant 5 ans, il n'a plus de commandes, ce qui est faux, il en a eu très rapidement après. Mais effectivement, le Sardanapale va mettre quand même un certain frein à sa carrière, mais momentané.
Donc à l'aube des années 1830, Delacroix est tout de même un artiste qui a fait ses preuves, grâce aussi au réseau social qu'il a su se constituer. Et on perçoit toujours la dualité du personnage, comme vous le disiez tout à l'heure. Malgré son attrait pour la vie mondaine, vous montrez un homme solitaire, rongé par la mélancolie. Vous insistez sur ce trait de caractère de Delacroix, hein, Delacroix mélancolique,
oui.
Enfermé dans son corps.
Il est mélancolique tout le temps. Et sa mélancolie évolue effectivement au fil des années. De sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, c'est vraiment, son journal, c'est vraiment le journal d'un grand, grand mélancolique.
Il l'écrit aussi pour éviter l'ennui, on a l'impression à certains moments.
Oui, pour l'entretenir. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'effectivement, l'écriture du journal, elle est une sorte de dérivatif à sa mélancolie ou une sorte d'exutoire à sa mélancolie, mais en même temps, elle l'entretient. Il l'entretient en parlant de sa mélancolie, il l'entretient.
Alors, il redoute l'ennui, il est donc souvent mélancolique et pourtant, il est d'une délicieuse compagnie pour ses amis.
Oui, parce que c'est un homme, Georges Sand, qui était sa grande amie, le décrit comme un homme extrêmement enjoué, charmant dans son commerce. Et ce qui est vrai, enfin, je veux dire, c'est pas le seul témoignage qui va dans ce sens. Je crois que ça vient d'une forme de politesse de Delacroix, qui réserve sa mélancolie pour lui-même, éventuellement un peu pour ses intimes et même pour ses amis les plus intimes. Quand il commence à épancher sa mélancolie, très vite il se reprend, fait une pirouette ou alors, je sais pas, s'attribue une formule un peu ironique. Mais il n'aime pas s'épancher comme ça près de ses amis. Il la garde pour lui.
Ses amis qui occupent une très grande place dans sa vie, puisque l'amitié est vraiment très présente.
Ah oui, l'amitié est vraiment une des valeurs les plus importantes pour Delacroix.
Vous parlez même d'une amitié proche de l'amour.
Oui, effectivement. Et je pense que d'ailleurs, il valait mieux être l'ami de Delacroix que sa maîtresse, parce que je pense qu'il donne le meilleur de lui à ses amis plus qu'aux femmes. Il a eu de grandes liaisons amoureuses aussi avec des femmes qui ont beaucoup compté dans sa vie. Il donnait plus à ses amis qu'à ses maîtresses, ça paraît assez certain. Et c'est une amitié passionnée, effectivement.
En fait, il était toujours craintif. Il avait peur de s'aliéner.
Oui, effectivement. La raison pour laquelle il ne s'est jamais marié ou pour laquelle il n'a jamais eu d'enfant tient à cela, effectivement. C'est le refus de toute forme d'aliénation.
Vous y avez allusion à ses relations avec les femmes. Mmh. En effet, il y en a peu qui ont compté, finalement, dans sa vie. Vous mentionnez...
La plus importante, c'est Joséphine de Forget. C'était une vague cousine à lui, avec laquelle il a eu une relation très très longue. et très fidèles, c'est-à-dire qu'ils ont été amants pendant peut-être à peu près une vingtaine d'années, et ils sont restés très proches même jusqu'à la fin de la vie de Delacroix. C'est vraiment un lien très fidèle. Bon, en même temps, alors quand on lit les lettres de Joséphine de Forget, qu'on a heureusement conservées, mais qui ne sont pas publiées, qui sont toujours manuscrites, on s'aperçoit qu'elle a beaucoup de patience avec lui quand même, parce qu'il la délaisse beaucoup. C'est un amant charmant, mais un amant fuyant.
Finalement, la seule femme à laquelle il est très attaché, comme vous le montrez dans votre ouvrage, c'est sa gouvernante.
Oui, Jenny Le Guillou, effectivement. Moi, je pense que c'est vraiment la femme, finalement, au bout du compte.
La femme de sa vie ?
Oui, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, qui a partagé sa vie. C'est vrai, c'est elle. Et elle représente énormément pour lui. Et dit qu'elle est la moitié de lui-même. Donc, c'est quand même un aveu très important.
Alors, plus on approche l'homme, plus il apparaît un petit peu contradictoire. Nous allons revenir à la peinture, mais après une courte pause. Merci.
Qui ne connaît pas ces évocations insolites de monstres marins, grouillants de mollusques, de crustacés, de grenouilles, de gueules de requins et autres créatures de la mer, prenant la forme de nez, de bouche ou d'oreille pour en faire surgir le portrait allégorique de l'eau. Archimboldo a connu une immense gloire de son vivant. Il avait brillé à la cour impériale des Habsbourg, à Vienne, au XVIe siècle. Puis il était tombé totalement dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte au XXe siècle par les surréalistes. Redécouvrez la modernité de ce peintre dans notre émission Carrefour des Arts sur canalacademy.com.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Christine Natta qui vient de publier une biographie d'Eugène Delacroix aux éditions Talendier. Et je voudrais maintenant qu'on parle de la dernière période, j'ai envie de dire, de Delacroix. On va commencer par évoquer son voyage en Orient, qui va être une petite révolution, je dirais, dans sa vie.
Effectivement. Alors déjà, donc il est parti au Maroc. Alors déjà, c'est un voyage en Orient, mais qui n'était pas le voyage en Orient des autres. Le voyage en Orient, pour les artistes qui l'ont précédé, c'était plutôt la Turquie, l'Égypte. Ce n'était pas le Maroc. Le Maroc est effectivement une terre assez inconnue, comme Delacroix le disait, au moment où il est parti, lui, en 1832. Et ça va être vraiment un choc. Effectivement, il y aura un avant, un après, c'est-à-dire qu'il ne peindra plus de la même manière avant et après son voyage.
Comment s'est-il retrouvé dans les bagages, je dirais, du Maroc ? Il faut peut-être rappeler qu'en 1830, au moment de la révolution de juillet, des journées de juillet, Delacroix s'est emparé du sujet, enfin s'est inspiré du sujet des journées de juillet pour peindre la liberté guidant le peuple, qui est certainement le tableau le plus connu d'Eugène Delacroix. Ce tableau est loué par tout le monde, lui vaut la Légion d'honneur même de Louis-Philippe. Est-ce que c'est grâce à ça, finalement, qu'on pense à lui pour le Maroc ?
Non, ça n'a pas de rapport, c'est vraiment un concours de circonstances. Alors, 1830, c'est aussi la prise d'Alger. À la suite de la prise d'Alger, il y a eu donc des conflits avec le Maroc. Évidemment, l'installation des Français en Algérie ne s'est pas faite d'une manière simple. Et alors, donc, ce qu'a décidé Louis-Philippe, c'était que pour pacifier les relations entre l'Algérie et le Maroc, il a décidé donc d'envoyer une mission diplomatique. À la tête de cette mission diplomatique, il a envoyé donc le duc de Mornay. Et comme cette mission devait durer longtemps, plusieurs mois, il fallait que le duc de Mornay donc ait, j'allais presque dire un homme de compagnie, peut-être, enfin, en tout cas des compagnons avec lesquels il puisse bien s'entendre. Donc on avait d'abord songé au peintre Eugène Isabey, mais qui était déjà allé en Algérie peu de temps auparavant, donc qui a décliné l'invitation. Alors donc, on a pensé à Delacroix. Alors on, c'est Mademoiselle Mars qui était la maîtresse en titre de Mornay, puis qui était, bon, que Delacroix connaissait plus ou moins. Donc c'est de cette manière-là, c'est par l'entremise donc de Mademoiselle Mars que Delacroix donc a rencontré le duc de Mornay. Ils se sont plus, disons, et puis et l'affaire s'est faite très très vite.
Et oui, il n'hésite pas à partir, cet homme si sédentaire.
Il n'hésite pas parce qu'il savait quand même que l'occasion ne se représenterait pas de sitôt. C'est la raison pour laquelle là, il s'est un peu fait violence. C'est vrai qu'il était tout effaré, on le sent à travers ses lettres, un peu effrayé d'avoir à faire ses, pas seulement ses bagages, mais enfin avoir organisé ce voyage si rapidement. Ça bousculait vraiment ses habitudes et ses projets, mais là, il s'est dit que vraiment, cette occasion ne se représenterait pas de sitôt.
Il passe 6 mois au Maroc.
6 mois, oui.
Il rapporte énormément de matière.
Il n'a pas beaucoup peint là-bas parce qu'il n'avait pas le matériel nécessaire. Il a peint très, très peu de toiles. En revanche, ce qu'il rapporte, c'est, on déborde des images mentales qui vont lui rester jusqu'à la fin de sa vie et aussi des carnets de voyage.
Qui sont d'une extrême richesse.
Voilà, et beaucoup d'aquarelles.
À son retour viennent les premières commandes de peinture de murailles. Nouvel art dans lequel Delacroix se révèle totalement, n'est-ce pas ?
Oui, d'autant plus qu'il n'était pas la première grande muraille qu'il ait faite, c'est à l'Assemblée nationale, c'est le Salon du Roi à l'Assemblée nationale. Et c'était une première pour lui parce qu'il a fait quelques essais de fresques, finalement une technique qu'il a finalement abandonnée donc pour mettre au point son outil technique. Mais finalement, c'était quand même une première et il s'est révélé être vraiment un maître en la matière. C'est-à-dire qu'il faisait des plafonds qui plafonnaient, comme disaient les critiques, pas des plafonds qui s'écrasaient sur la tête du spectateur.
Alors tout semble réussir à Delacroix, il se présente en 1837, une première candidature à l'Institut, nous sommes au micro de Canal Academy, donc oui. Nous allons dire deux mots de ces multives récidives. Il est rejeté, il présente 6 autres tentatives. À chaque fois, on a l'impression que ces candidatures le mettent dans des états pas possibles.
Ça dépend desquelles. Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'en tout cas, ça lui prenait beaucoup de temps. Parce qu'évidemment, c'est comme aujourd'hui, il y avait donc toutes les visites d'usage à faire. Bon, il fallait constituer ce dossier, faire surtout ces nombreuses visites, essuyer effectivement des échecs, c'est jamais très agréable. Mais il y tenait beaucoup. Il y tenait beaucoup parce que pour lui, c'était une... Bon, il avait déjà une reconnaissance de gens pour lesquels il y avait beaucoup d'estime. Mais il avait besoin de cette reconnaissance officielle parce qu'il disait que pour le public, qu'elle était nécessaire à la reconnaissance publique. Et Delacroix voulait être connu par le public le plus large possible. Et donc, ça passait par cette reconnaissance académique.
Il parvient finalement à se faire élire au siège de Delaroche, qui est décédé en 1856. Donc, en janvier 1857, il est élu. Pourquoi cette fois-ci ?
Alors, il est élu de justesse, déjà, essentiellement grâce aux voix des musiciens. Donc c'est vraiment peut-être parce qu'on ne pouvait plus tellement faire autrement. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à peu avant cette date, en 1855, il y a eu l'exposition universelle, qui a été, au cours de laquelle Delacroix, avec Ingres, les deux grands rivaux, ont eu droit à une grande rétrospective. Et donc Delacroix a eu un vrai, véritable triomphe. Cette rétrospective a été vraiment honorée de tout le monde. Donc là, l'Académie ne pouvait pas plus faire autrement. J'allais dire, elle était presque forcée de l'accepter.
Pourquoi l'Académie était frileuse de le voir entrer ?
Parce que Delacroix reste un peintre très peu académique, justement. Et puis alors, surtout, il y a eu un obstacle quand même pendant très longtemps, c'est Ingres lui-même, qui a fait vraiment barrage autant qu'il a pu pour empêcher Delacroix d'entrer. Et l'Académie n'était pas prête à accepter cette peinture qui était trop nouvelle.
Sa victoire en 1857 le comble-t-elle de joie ?
À demi. Alors, il est satisfait, effectivement, mais son plaisir est quand même gâché du fait, d'abord, parce que c'est quand même une reconnaissance très tardive, il a quand même fallu qu'il s'y prenne à 7 reprises pour pouvoir enfin être admis. Et la deuxième chose, c'est que l'Académie ne lui donne pas le poste de professeur aux Beaux-Arts qu'il espérait. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est à demi satisfait, parce qu'on sent qu'on lui attribue ce titre vraiment du bout des lèvres.
Il se lance alors dans un dictionnaire des Beaux-Arts.
Oui, qu'il n'achève pas.
Pour compenser justement son envie d'enseignement ?
Peut-être, peut-être. À défaut d'avoir une chaire aux Beaux-Arts, eh bien, il dispenserait son enseignement de cette manière-là. Mais finalement, c'est un dictionnaire qui n'a jamais été achevé. Alors, pour des raisons peut-être qu'on peut comprendre, parce que Delacroix a toujours eu un problème avec l'écriture. Alors, on ne le croirait pas, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui a écrit son journal, qui a écrit 6 tomes de correspondance. Mais malgré tout, quand il s'agit de faire un objet définitif, il est toujours un petit peu embarrassé. C'est la raison pour laquelle il n'a pas... Puis après, il a été pris par son travail de peintre qui l'intéressait davantage.
Oui, puisqu'il mène de nombreux chantiers et vastes à la fin de sa vie. Il s'y épuisera finalement.
Oui, alors il y a eu Saint-Sulpice, effectivement, qui était...
La galerie d'Apollon.
Voilà, je pensais au dernier chantier qui était, comme le disait Maurice Barrès, son testament artistique est effectivement Saint-Sulpice. Alors c'est des chantiers qui l'épuisaient, mais qui en même temps l'enchantaient. C'était les deux.
Vous y allusion à la chapelle de Saint-Sulpice. Oui. Je dirais que c'est la dernière muraille, mais pas celle qui souleva le plus d'enthousiasme.
Non, il a été vraiment très amèrement... il était très amer au moment de l'accueil de cette ultime muraille, qui n'a pas été aussi unanime qu'il l'aurait souhaité. L'accueil de la critique a été moins enthousiaste que celui, par exemple, de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Il meurt en 1863, finalement, à la suite d'un rhume qui dégénère très très mal.
Il était tuberculeux, il est mort d'une crise d'hémoptysie. Il était malade, mais il était... Donc Delacroix, on n'en a pas parlé, mais Delacroix était quelqu'un qui était malade toute sa vie.
Très hypochondriaque, vous dites.
C'est vrai, mais c'était pas toujours un malade imaginaire, c'était souvent un véritable malade. Et il a souffert de la gorge, il a souffert de toutes les voies respiratoires. Et d'ailleurs, souvent, je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la mélancolie, du fait qu'il avait des problèmes de larynx, il était souvent obligé d'être muet pour pouvoir justement préserver son larynx. Et donc, ne pas parler, il ne fallait pas qu'il soit tenté de le faire, donc il n'allait pas dans le monde. Alors, ça l'a engagé à conduit parfois à un isolement qui entretenait justement cette mélancolie.
Là aussi, on n'en a pas beaucoup parlé. Vraiment, dans votre livre, on le voit très mondain, enfin, fréquentant les différents salons, très lié donc avec George Sand. Il y a vraiment ces deux aspects du personnage.
Oui, 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 c'est le mondain, le solitaire, le mondain, le sauvage.
Donc en 1863, Delacroix meurt. Une dernière récompense, entre guillemets, l'attend, puisqu'il y a une grande vente aux enchères qui est organisée. Et là, c'est l'engouement général.
Alors c'est malheureusement une récompense posthume, puisque Delacroix ne la connaîtra pas. Mais effectivement, c'est un enthousiasme général, les prix s'envolent, à la grande satisfaction effectivement des amis de Delacroix.
Merci infiniment Marie-Christine Natta. Je rappelle donc que vous venez de publier une biographie de Jeanne Delacroix aux éditions Talendier. Je vous retrouve à très bientôt sur l'antenne de Canal Académie. Merci, au revoir.